Lunch sur RCN.
Salut.
Salut.
Vous allez bien, ça va?
Ah ouais, tranquille.
Bien, et toi?
Moi ça va. Donc tout de suite on va écouter Radou sur ce que tu nous as dit.
Alors ce sera sur l'obsolescence programmée.
Voilà.
Donc on va voir comment les entreprises en fait elles nous arnaquent un petit peu pour nous faire racheter à chaque fois du matos.
Mm-hmm. Ensuite on aura Antonin.
Oui, alors moi je vais faire un petit quiz avec 10 questions comme à l'époque.
À l'époque du dernier. Enfin, nous aurons Axel.
Et moi, je vais parler donc des yokai en général et de un petit peu parler de trois yokai.
Il manquait plus que ça. Ouais. C'est parfait.
Et ben, on est ensemble jusqu'à 14h30. C'est parti.
RCN, l'âge bête.
Tout de suite, on écoute Radou.
Alors, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de trahison? Vous achetez un smartphone, une petite merveille de la technologie à 800 euros. Les 6 premiers mois, c'est le grand amour. Il est rapide, fluide. La batterie tient 2 jours. Et puis, bizarrement, après la deuxième année, pile au moment où la garantie expire, le drame commence. Il rame, il chauffe, et la batterie fond aussi vite qu'un sorbet au soleil. Ce n'est pas de la malchance, toutefois. Ce n'est pas non plus votre imagination. C'est une stratégie de guerre. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'obsolescence programmée. Comment les géants de la tech ont transformé nos bijoux technologiques et futurs déchets électroniques. Alors, l'obsolescence n'est pas juste un composant qui lâche, c'est plus vicieux que ça. D'abord, il y a l'obsolescence logicielle. C'est le coup classique de la mise à jour indispensable qui rend votre appareil aussi lent qu'un escargot sous tranquillisant. Voilà pour l'idée. On alourdit le système pour que votre vieux processeur ne suive plus. Ensuite, il y a l'obsolescence technique. On soude la batterie, on colle l'écran, on utilise des vis propriétaires impossibles à dévisser sans outils qui n'existent que dans une usine secrète en Californie.
Ah bah ça, oui. On a déjà vu.
Tout, surtout iPhone, pour ne pas pouvoir réparer vos trucs.
Oh, le focus.
Je ne fais pas de focus, hein, c'est juste comme ça. Le but est simple, rendre la réparation plus chère que l'achat d'un appareil neuf. Et enfin, la plus puissante, l'obsolescence psychologique. On vous martèle que votre téléphone est « has been », entre guillemets, parce qu'il n'a que 3 capteurs photo au lieu de 4. On crée le besoin de nouveautés là où il n'y a aucune nécessité réelle. Je pense que ça se voit surtout avec les pubs.
Oui,
encore une fois,
publicité,
beaucoup...
Oui, souvent oui. Au bout de...
Qui force souvent à l'achat pour des trucs qui ne servent à rien. Genre, tu rajoutes 3 mégapixels sur un capteur photo, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Oui, voilà, tu ne le remarques jamais en général. Et la question, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour la croissance, bien sûr. Si votre machine durait 15 ans, Apple, Samsung et les autres feraient faillite demain. Le problème, c'est que ce modèle a un coût écologique désastreux. Pour fabriquer un seul ordinateur portable, smartphone, hein, il faut extraire des tonnes de terre. Utiliser des métaux rares comme le lithium ou le cobalt, souvent dans des conditions humaines déplorables à l'autre bout du monde. On détruit la planète pour produire des objets qu'on va acheter dans 24 mois, globalement. Bon, ça c'est un peu une moyenne, je sais qu'on peut durer plus longtemps, mais souvent c'est ça. Chaque année, en fait, l'humanité produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. C'est énorme. C'est comme si on jetait 1000 ordinateurs portables chaque seconde.
C'est énorme.
C'est absurde, c'est polluant, et c'est surtout un immense gâchis de savoir-faire technique. Alors, on baisse les bras? Pas du tout. La tech, c'est aussi le domaine de la bidouille et de la résistance. Partout dans le monde, le mouvement du droit à la réparation gagne du terrain, et principalement en Europe. On voit apparaître des indices de réparabilité sur nos produits. Des entreprises comme Fairphone ou Framework essaient de créer des smartphones et des ordinateurs totalement modulaires. Vous voulez changer la batterie? Bah ça prendra 30 secondes. Vous voulez un meilleur appareil photo? Vous changez juste le module, pas tout le téléphone. Et puis, il y a la magie du logiciel libre. Redonner une seconde vie à un vieux PC en installant un système Linux, par exemple, léger, c'est un acte de rébellion. C'est dire non, ma machine n'est pas morte parce qu'une multinationale l'a décidé. Elle est morte quand j'ai décidé qu'elle ne me servait plus. En résumé, en fait, la prochaine fois que votre appareil commence à fatiguer, bah, ne courez pas tout de suite au magasin. Sortez un tournevis, cherchez un tutoriel sur internet, allez dans un repair café. La technologie est trop précieuse en fait pour être jetable. Reprendre le contrôle sur un objet, c'est un peu reprendre un peu notre liberté de consommateur. Et comme dirait l'autre, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, surtout quand il coûte un SMIC.
D'accord, mais alors dans ce cas-là, imaginons si ton tel commence à ramer de fou au bout de... Je ne sais plus comment tu as dit, peut-être 2 mois, d'accord, 2 mois.
Plutôt 2 ans, mais ouais.
Oui, plutôt 2 ans. Dans ce cas-là, tu dis qu'en sortant un tournevis, on pourrait faire marcher en regardant un tutoriel.
C'était un peu plus vague. Mais en gros, ça englobe un peu tous les appareils technologiques. Pas forcément le téléphone, mais je veux dire un laptop, peut-être un appareil électroménager. Ça peut se réparer en général.
D'accord.
Même pour un téléphone qui commence à être un petit peu vieux, bah en général, par exemple, c'est pour ça que je disais que vous pouvez aller dans des centres de réparation. Et en général, genre, tu peux changer juste une carte mère ou peut-être rajouter plus de stockage. Et en général, ça va venir compenser un petit peu le problème.
D'accord, donc c'est lié au stockage, notamment
pas forcément au stockage, mais il y a plein de facteurs qui jouent sur ça.
D'accord.
Puis après, vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter un téléphone neuf.
Oui, même s'il rame un petit peu, bon, au final,
il y a certains téléphones
juste des tâches plus légères.
D'occasion et qui sont moins chers.
C'est vrai.
Et qui marchent très bien.
Par exemple, pour ça, bah, je peux vous recommander Back Market si vous voulez acheter du reconditionné.
Ouais. Back
c'est
Market.
Très bien. Back Market, ouais.
C'est déjà mieux que d'acheter quelque chose de neuf, on va dire.
Oui, voilà.
D'accord.
Bon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire.
Eh bah, bien, merci Radou. On apprend encore des choses. Donc,
bah oui,
c'est bien.
Vaut mieux.
Et donc, tout de suite, on écoute Awake de Creavity. Et tout de suite, on écoute Antonin avec son petit QCM, son petit quiz.
Exactement, on va refaire un petit quiz comme la dernière fois. Et oui, bah encore, on s'en lasse pas.
Bah moi, j'aime bien les quiz.
Bah c'est très bien. Et ça tombe très, très bien. J'ai préparé 10 petites questions. La dernière fois, on s'est pas mal débrouillé, je trouve. C'est surprenant. Non, c'est pas surprenant. Mais voilà, c'est super. C'est très bien.
Et bah, on t'écoute.
Et bah, première question. Que célèbre-t-on chaque année le 31 décembre dans le calendrier grégorien? Mais qui célèbre-t-on plutôt? C'est-à-dire, tu vois, Là, c'est la Saint, je sais plus, c'était la Saint Gisèle il n'y a pas longtemps. Ben là, c'est la Saint quoi le 31 décembre.
Ah ouais.
C'est pas un QCM ?
Alors, si, mais peut-être que tu vois, j'avais un peu d'espoir parce qu'en vrai, c'est le 31 décembre, on se dit, ouais, c'est une date connue. C'est possible que vous soyez.
Bah, c'est le nouvel an. Enfin,
oui, mais ça, en fait, il y a une fête ce jour-là.
Le 31 décembre, il y a une fête.
Ah oui, oui.
La Saint.
Et justement, on appelle ça le réveillon de la. Vous le savez pas. Alors, je vous mets des petites questions. Proposition, il y a Bernard, Marc, Michel, Sylvestre.
La Saint-Sylvestre.
La Saint-Sylvestre.
Non, je crois pas que c'est ça. C'était quoi les ceux d'avant ?
Il y a Michel, Marc et Bernard.
Je vais dire Marc.
Sylvestre, moi je dirais.
Donc Marc, Sylvestre.
Bon, je reste sur ma première idée, Sylvestre.
Donc Sylvestre. Eh bien, c'est bien Sylvestre. Et on appelle aussi donc, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Je ne sais pas si ça vous parle.
Un vite fait.
Ouais, c'est vite fait.
Ok, bah, c'est parfait parce que voilà, on en apprend tous les jours. Non, mais c'est vrai que en fait, on le sait pas alors que c'est le 31 décembre. Quoi, tu imites le truc le plus connu. Enfin, bref. Quel surnom est donné à la Corse ? Si vous le savez, vous pouvez le dire tout de suite. Vous ne savez pas. Voici des petites propositions. Donc, A, l'île de Papillon. B, l'île du Soleil Levant. C, l'île de la Beauté. D, l'île au Mimosa.
Je crois que c'est Mimosa.
Moi je vais suivre Adou.
Alors attention, je peux peut-être j'ai peut-être mélangé les noms d'îles avec d'autres noms d'îles.
Ouais. Attends.
Les lettres, oui, dans les noms, les surnoms.
L'île de la Beauté, tiens.
C'était quoi le premier ?
Il y avait l'île du Papillon, l'île du Levant, l'île de la Beauté et l'île au Mimosa.
Non, donc, j'avais resté sur
Mimosa. Je vais dire Beauté, moi. Oui. Je vais partir sur Beauté.
D'accord.
Aussi.
Mimosa, d'accord, Mimosa.
J'ai aucune idée de ce que ça peut être.
Ok, bien, c'était bien l'île de la Beauté, dire Adou.
Trop chaud.
qui est très modeste. Et alors, pour information, il me semble que l'île Papillon, c'est Guadeloupe, mais je ne suis pas trop sûr.
Ouais, c'est
et Mimosa, c'est un autre, mais le nom, ça ne me revient pas et ce n'est pas très connu. Mais ça existe. Donc le truc de ah, ça me parle, donc ça doit être ça. Là, ça ne marche pas trop, j'avoue.
Et celui le vent, bah, c'est le Japon, quoi.
Oui, voilà. Ouais, on va dire ça. Bah oui, c'est ça en plus. Troisième question. Comment s'appelle le traité fondateur de l'UE, l'Union Européenne ?
Traité de Genèse ?
Ce n'est pas ça.
Non. Ok. Von truc, non ?
Von, non, il n'y a pas de von.
De Maastricht ?
Oui.
Oui, c'est ça, exactement.
Ah.
Non, c'était l'année dernière.
Ah, ça date pour moi.
Le traité de Maastricht.
C'est en troisième, la Seconde Guerre mondiale.
Ouais, mais ça, je sais que je l'ai vu l'année dernière.
Ah bon, je ne l'ai pas encore vu, en tout cas.
Alors, ça ne me dit rien du tout, vraiment rien.
Ça me dit...
Je pensais que c'était un autre truc, c'est le seul traité où je m'en souvenais, en fait. Mais...
Ah ouais, parce que j'avais proposé le traité de Nice, l'acte unique européen et le traité de Bruxelles.
Bruxelles.
Et en soi, ils sont... Nice et Bruxelles, ça parle.
Ils sont liés un peu, mais...
Un peu, ouais. Mais donc, du coup, ouais, précisément, c'est bien ça, c'est... le traité de Maastricht. Bah d'ailleurs, Maastricht, vous savez, c'est où ? Dans quel pays ?
Non.
C'est très drôle. Aux Pays-Bas. Et avant, avant la communion qui a fait que ça s'appelle l'Union Européenne, avant, ça s'appelait la CEE. Et c'était la Communauté Économique Européenne. Voilà. Avant l'Union Européenne, il y avait ça.
Ouais, ça, je crois que je m'en rappelle un peu.
Pour, voilà, pour information. Quatrième question. La langue officielle du Brésil, quelle est-elle ?
Portugais.
Bah, le portugais.
Exactement. C'est pas très compliqué. Ça passe. Comme ça, Axel y saura si jamais il savait pas.
Facile. Donne-nous du défi,
Antonin. Parce que oui, il y en a, ils croient qu'il y a une langue qui est brésilienne, mais alors je sais pas s'il y en a une vraiment.
C'est une colonie portugaise. Donc
oui, voilà, c'est ça.
Oui, ils les ont bien envahis.
Et il y en a, ils confondent avec l'Espagne parce que c'est à côté, etc.
Non, par contre, l'Espagne a eu les Philippines.
Ils ont eu les Philippines.
En Argentine aussi, je crois. Non,
ils en ont beaucoup en Espagne.
En fait, la majorité de la Latine parle espagnol. Mais par contre, le Brésil parle portugais, vu que c'est une ancienne colonie portugaise.
Voilà, on aime parler de l'envahissement, etc. Et donc, cinquième question. Qui a écrit Notre-Dame de Paris ? C'est un roman, bien sûr.
Bonne question.
Oula.
C'est une très bonne question.
Je crois que ma sœur a dû me le dire une fois. D'accord. J'ai pas retenu.
Eh bien, je vais mettre des...
C'était pas un moine.
J'ai déjà entendu, mais je sais pas du tout.
Eh bien, je vais mettre des propositions. Comme ça, moyen que vous retrouviez. Donc, j'ai mis Balzac dedans. Hugo, Victor Hugo. Camus, Corneille. Je crois que c'est Albert Camus, il me semble. Ouais.
Ouais, c'est
Albert Camus et Corneille. Le jeune Corneille, je crois qu'on dit.
Je crois que c'est Albert Camus.
Je suis pas sûre.
Aucune idée.
Je pense pas que ce soit Albert Camus.
Eh bien, faites vos jeux, je vais répéter. Balzac, Hugo, Camus, Corneille.
Bon, Camus, en même temps, je sais pas. Hein.
Je vais suivre Rado. Parce qu'apparemment, il est
pour,
trop chaud.
Pour Camus ?
Albert Camus, ouais.
D'accord. Lucie, tu
non,
sais,
je sais pas,
d'accord.
Aucune idée, mais je pense pas que ce soit Camus.
Ok. Eh bien, c'est Victor Hugo. Voilà, tout simplement. Tout simplement.
D'accord, classique.
Notre-Dame de Paris, donc. C'est comme ça que s'appelle ce roman. Ne me demandez pas de quoi ça parle, je n'en ai aucune idée. Non, si, ça parle de Notre-Dame de Paris, j'imagine.
Mais donc, bon. C'est un roman ?
Oui, c'est un roman.
Okay.
T'as pas regardé le film ? Enfin, le Disney ?
Bah, c'est
jamais.
Pas pareil.
Vraiment ?
Bah, je pense que c'est pas pareil.
C'est inspiré ?
Aucune
bah, enfin, oui, ça reprend l'histoire. Bon, ça l'a enfantisé un petit peu, mais...
Bah.
Dans les grands traits, tu as une gitane, tu as le bossu de Notre-Dame.
Et t'as l'autre.
Oui, le bossu, c'est
et
ça.
Et tu as, oui, un chevalier.
Et la chèvre aussi.
Une ça, chèvre. La chèvre, je sais pas si elle est dans le livre.
Je pense pas.
Non, je crois que c'était inventé par Disney, ça.
Mais il y a la chèvre.
C'est tu le dis.
Il y avait la chèvre. Et sur la couverture, il me semble que oui, il y a Notre-Dame dans le fond, dans le deuxième fond.
Qui
et
brûle.
Oui, alors non, je crois pas. Et au premier plan, il y a il y a le bossu, justement. Voilà. Et qui a l'air de fuir Notre-Dame, je ne sais pas pourquoi, car je ne connais pas ce livre. C'est honteux. Sixième question. Quel est le nom donné au drapeau du Royaume-Uni ?
Le Union Jack.
Union Jack, ouais.
Union Jack, c'est exactement ça, bien joué. Très bien. Septième question, quel attribut de l'autruche ornait jadis l'uniforme des mousquetaires ? Alors, oui, je vais donner des... Oui, c'est vrai
les
que ça
plumes,
parle pas
hein.
Tout de suite. Donc, A, des griffes, B, une aile, C, une plume, D, une patte.
Je dirais une plume.
Moi, je dirais les griffes.
oui, de l'autruche, oui.
Bah, je vais dire la plume.
Une
hein.
Patte.
Une plume, une patte et la... Je sais plus ce que t'as dit.
Griffe.
Et la griffe, oui, c'est ça. Eh bien, il s'agit de la plume, c'est ça. La plume, de mes souvenirs, c'est sur le chapeau. Un truc comme ça.
Ah oui, ok, je vois.
Ouais, vous avez la vision. Bah, c'est très bien. Ça, c'est vrai que, bon, se balader avec une patte d'autruche...
Bah,
c'est un peu
jamais.
Bizarre. Oui, ouais, moi j'avais justement, pousser, mais... j'avais les illustrations qui me passaient un peu en tête avec la plume au niveau du chapeau qui était accroché dedans.
Moi, oui, dis, il va se battre avec une patte d'autruche.
Bah, après, non, bon, on se balade avec une patte de lapin pour avoir de la chance. Alors bon, j'imagine qu'il n'y a rien de surprenant. huitième question, quel est le nom de la veste en satin portée par les jockey, donc les gens qui font du cheval si vous ne savez pas.
Je ne sais pas comment ça s'appelle. Idée. Les propositions.
Je vais, oui, bah oui, parce que c'est compliqué. A, une casaque. B, le bombe. C, briche. C, cravache.
Bah, c'est le 1, c'est le... J'ai déjà perdu.
Casaque.
Je crois que c'est cravache.
C'est casaque ?
Moi, je vais dire cravache.
Cravache.
C'est casaque.
C'est un truc, je crois.
C'est le premier, voilà.
Je dirais le 1 aussi.
D'accord. Eh bien, c'est bien le casaque, effectivement.
Parce que le... bah, c'est la cravache. Et c'est...
Ah ouais.
Le taper, je crois, non ?
Bah, le taper.
Wow. Ouais, pour frapper l'animal, là.
Donc voilà, voilà, c'est un mot qui vient
la
du
bombe,
turc.
C'est le casque. Et le dernier, je sais plus ce que t'avais dit.
J'avais dit. J'ai dit cravache, bombe et briche.
Briche, je sais pas ce que c'est.
Ouais, ça doit être inventé. Donc oui, c'est un mot venant du tic, turc, kazakh. Et c'était également porté par les mousquetaires. Comme ça, on a un lien direct avec la question précédente. C'est parfait. Ensuite, en cuisine, vous y connaissez en cuisine ?
Oui.
Un petit peu, ouais.
Mieux la cuisine. Parfait. Eh bien, dans la recette tzatziki, quel légume est associé au yaourt ?
Concombre.
Le concombre.
Le concombre, c'est parfait. Non, mais je crois qu'il y a deux fadas de...
Non, mais j'en ai fait il n'y a pas longtemps en plus.
Ouais,
donc,
non, c'est un basique. Okay.
C'est
basique.
Vrai
que c'est un basique, oui.
C'est frais, c'est agréable pour l'été.
Bah oui.
Oui.
Et le
c'est avec
plutôt
les pommes
pas mal
de terre.
En vrai, c'est vrai. Oui, ou alors avec des petits cressons ou avec des...
Des carottes coupées.
Ouais, voilà, des carottes coupées.
Antonin, bah, tu me donnes faim, là. Tu
ah oui, ah oui. Midi 44, là. Non, mais on va se calmer un petit peu. Et on va reprendre. Je vais tourner ma feuille. Dixième question, quelle est la viande qui est utilisée dans la spécialité française nommée le petit salé aux lentilles ?
La saucisse de...
Alors oui, il y a ça, mais je vais dire les propositions du coup parce que il y a ça, mais c'est pas ce qu'on attend. Donc le A, je propose le veau, B, le bœuf, C, le mouton et D, le porc.
Je vais dire mouton.
J'aurais dit le veau et en même temps j'hésite avec le mouton. Mais je vais rester sur le veau.
D'accord, donc deux veaux et un mouton.
Ouais.
C'est hyper drôle. Eh bien, c'est du porc.
Allez.
Ah, d'accord.
Voilà. Mais vous voyez tous le plat, le petit salé. Enfin, vous voyez avec les lentilles dans le. Pas le chaudron, mais la grosse casserole et tout, avec le lard, les saucisses, etc. Eh bien, voilà. Et donc, la viande, en tout cas, il s'agit de porc. Et donc, j'ai terminé avec mes questions.
Eh ben, on a encore appris des choses. On a encore appris des choses. Et donc, bah, tout de suite, on écoute Kazawaki de Santos Bravos.
Como Kawasaki. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche, no te vayas. Yo quiero más. Contigo quiero, quiero. Pégate más, más. No me importan las demás. Contigo quiero, quiero. Yo a mí me acelera. Como Kawasaki. Como tú me bailas, do you love me? Me aceleras como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche, no te vayas. Aquí. Como tú me bailas, do you love me? Me acelera como Kawasaki. Tú me tienes loco, loco por ti. Quédate esta noche y no te vayas.
RCN, l'âge bête.
Retour dans l'âge bête sur RCN. Et donc, on va terminer cette émission sur Axel et les yokai.
Donc, déjà, je vais sûrement faire peut-être deux ou trois émissions dessus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mm-hmm. Donc, premièrement, déjà, on va commencer. Les yokai, au départ, ça veut dire un peu des apparitions étranges.
Ok.
Oui.
Ça a été bizarre. Beaucoup transmis à travers la littérature et la culture orale au Japon. Et donc maintenant, c'est beaucoup enraciné dans la culture du Japon.
Oui, on le retrouve dans tout maintenant, les yokai.
Donc ça a surtout été inspiré autour des kami. Donc les kami, ça veut dire esprit au départ.
Okay.
Mais c'est un peu tout ce qui est divinité ou une effigie, tout ce qui peut être vénéré un peu.
D'accord.
Donc là, c'était plus des divinités du shintoïsme. Alors, je sais pas trop c'est quoi, j'ai pas.
Shintoïsme, c'est la chrétienté, mais là-bas. Enfin, c'est en gros, c'est une religion et ouais, c'est la plus connue là-bas.
Ok. Donc, c'est des phénomènes qui se manifestaient souvent sous la forme d'apparitions fantomatiques ou des créatures surnaturelles. Donc les yokai, ça fait beaucoup de... Il y a des gens qui expliquent pas ça par des phénomènes de la vie quotidienne. Par exemple, des phénomènes naturels ou des phénomènes surnaturels qu'ils n'arrivent pas à expliquer.
D'accord.
Donc les plus connus, c'est surtout les Oni, les Tengu et les Kappa, qui sont, ils sont considérés comme les plus emblématiques. Alors, j'ai 2-3 informations pour chacun.
Ok.
Ok, ouais.
Donc les Oni, j'ai un truc, c'est que, en fait, j'ai appris que les Oni, enfin, au départ, dans Demon Slayer, c'est les démons, il me semble que c'est des Oni.
Peut-être.
Qui s'est considéré comme des Oni.
Oui.
Dans la version japonaise de base. Ils ne les considèrent pas vraiment comme des démons, quoi.
Ah oui.
Enfin, si, mais des Oni. Ensuite, les Tengu, donc, c'est dans la religion Shinto, dans le shintoïsme, du coup, c'est beaucoup des divinités qui sont chargées de la protection de la forêt ou des montagnes.
Ok, donc...
Des esprits protecteurs.
Ouais, voilà. C'est pas quelque chose de... Comme les dernières semaines, où soit ils annoncent la mort, soit ils viennent chercher les gens directement pour les manger. Ou...
ouais,
des choses comme ça.
Sympathique.
Ils sont un peu moins violents.
Kappa, c'est considéré comme des divinités de l'eau. Je trouvais pas mal d'histoires dessus, du coup, je ferais peut-être...
C'est pas ces divinités-là qui ont des sortes de chapeaux et
si,
tout.
Si, oui, ils ont des espèces de chapeaux.
Ça inspire aussi les Kappas dans Mario, je crois.
C'est ça que je pense.
Les Koopas, oui. Les Koopas sont inspirés des Kappas.
Ah ouais?
Je crois, oui.
Je sais pas, parce que...
Parce qu'ils sont pointus, tu sais.
Ah oui, c'est vrai.
C'est un
oui,
peu
ils ont des petits pics sur le...
Ah ouais,
ouais.
Et je crois que ça vient de là.
Ils n'ont pas de pics, les Koopas?
Non, ils n'ont pas de pics, mais c'est plus... Ou alors,
bon,
je
bref.
Du coup, j'ai trouvé pas mal d'histoires sur les Kappas. Donc peut-être que je ferai sûrement une émission consacrée à eux, donc je ne vais pas en raconter là, parce que c'est des histoires assez longues.
D'accord.
Du coup, dans... maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont repris les yokai. Donc, comme je l'ai dit, Demon Slayer avec les Oni, on a Yokai Watch, on a beaucoup de choses, même certains Pokémon qui en sont inspirés de yokai.
Ah oui, ça m'étonne pas. Hein.
Donc, les Oni aussi un peu.
Les Oni, on les retrouve dans un autre manga, dans un autre animé, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est vraiment basé autour de ça. Et donc, c'est souvent, ils ressemblent entre guillemets à des humains, si on peut dire ça comme ça.
Ouais. Mais j'ai vu en recherchant un peu des choses où il y avait des Oni dedans, j'ai vu qu'il y avait même un manga qui s'appelait Oni.
Oui,
alors
voilà.
Je sais pas si c'est
oui, ça me dit un truc en fait, mais...
J'ai jamais lu en tout cas, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans.
Je crois qu'il y a l'anime aussi. Moi, je l'ai regardé un anime qui parlait d'Oni comme ça. Donc,
D'accord, mais c'était tout. Bien.
Oui, j'ai bien aimé.
Ok.
Bah, du coup, voilà, si vous connaissez, j'ai pas eu trop rien à dire moi, donc je sais pas.
D'accord,
si
ouais.
C'était yokai peut-être ou...
Il
y a beaucoup de dessins animés dans la pop culture aujourd'hui qui parlent de yokai. Hein.
Ouais, qui en reprennent.
Moi, je pense à quand j'étais petite, Yokai Watch, tout simplement.
Ouais, j'ai beaucoup joué.
J'ai regardé un petit peu, ouais.
Voilà. Pokémon, je crois, il y a aussi inspiré de certains yokai, il me semble.
Ah, il y en a pas mal qui sont inspirés de yokai.
Ils sont inspirés d'Oni, je crois. Donc, Oni Gali.
Peut-être aussi,
la,
ouais.
La grosse boule de neige, un peu.
Onigali, ah, il me semble bien un truc, oui.
Je vois.
Oui, attendez, je vois.
L'image, mais voilà, du coup, c'est dans le nom.
Il est très effrayant.
D'un Oni. Je l'aime bien, lui.
Mais oui, on voit beaucoup les yokai dans toute la culture aujourd'hui, et pas que japonaise, en fait.
Ah oui, je vois.
Oui.
Ah, son évolution est magnifique, d'ailleurs.
Ah, sa méga évolution, elle est belle.
Très belle. Ouais, et puis j'avais déjà vu dans les bandes dessinées, plutôt, qui étaient adaptées, etc. Ils ont fait des petites histoires comme ça qui parlent d'Oni, etc. Et c'est vrai que souvent c'est des trucs un peu surnaturels où rencontre une ombre d'enfants, etc. qui s'est perdu. Enfin, vous voyez.
C'est souvent glauque, hein. C'est souvent...
Oui.
Parce que là, j'ai donné les Tengu qui protègent et tout, mais je sais qu'il y en a qui sont.
Ouais, qui sont vraiment gore, hard.
Je sais.
Oui, il est en long cou.
Je crois aussi, je sais plus c'était quoi, mais il y a un type de yokai qui doit exister qui en fait sont des humains et je sais plus trop ce qui leur arrive. Mais ça doit être un truc avec ils se sentaient seuls ou très mal dans leur corps ou alors ils se suicidaient, je sais plus exactement, et ils devenaient des yokai justement.
Ouais, je sais qu'il y a il y a
un truc avec la mort,
il me semble que c'est quand ils meurent ils se transforment en
par exemple, je crois qu'il y en avait un, bon, je connais plus le nom, mais c'est un yokai chien à tête d'homme.
Ah oui, ça, ouais, je connais Yokai Watch juste moi celui-là, mais
chien à tête d'homme,
voilà,
d'accord,
voilà.
Et je crois que c'est justement des humains en fait qui avec un certain truc deviennent un yokai.
Oui, avec des morts traumatisantes ou des choses
comme ça.
Peut-être en mourant en même temps que quelque chose, ou du coup ça fait, je sais pas.
Je sais plus exactement, mais voilà.
Moi non plus, mais
En tout cas, c'est sympa les yokai. C'est voilà. Et donc, bah, merci de nous avoir écoutés. Nous avons enregistré cette émission depuis. On se retrouve mercredi prochain. Salut tout le monde.
Salut.
Salut.